Ce matin, je vous propose un message, en fait un texte pas très facile. Donc, on va prier le Seigneur pour nous éclairer là-dedans. Seigneur, je te demande d'enlever tout ce qui n'est pas de toi, de cette place-ci, de nos cœurs, de nos têtes, Seigneur. Nettoie tout ça, Seigneur, pour que seul toi, seul ton esprit, Seigneur, puisse circuler en nous et dans cet endroit pour nous aider à comprendre ta volonté, Seigneur. Au nom de Jésus, on te le demande. Amen. Donc, le texte, c'est du livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 7, du verset 1 à 10. Puis, j'avertis tout de suite qu'il y a des choses là-dedans, on dirait que c'est le contraire de ce que ça devrait être. D'autres, non. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum et le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. Mieux vaut le chagrin que le rire, car avec un visage triste, le cœur peut être content. Le cœur des sages est dans la maison de deuil et le cœur des insensés dans la maison de joie. Mieux vaut entendre la réprimande du sage que d'entendre le chant des insensés. Car, comme le bruit des épines sous la chaudière, ainsi est le rire des insensés. C'est encore là une vanité. L'oppression rend insensé le sage, et les présents corrompent le cœur. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ne te hâte pas en ton esprit de l'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Ne dis pas d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci, car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. Et ça, c'est la parole du Seigneur. Il y avait un petit garçon qui suivait des cours de catéchèse catholique, on imagine, parce qu'il était avec un prêtre. Puis le prêtre demandait, si on te donne la possibilité de choisir entre la sagesse et l'argent. Qu'est-ce que tu choisis? Le petit gars, sans hésiter, il dit l'argent. Le prêtre, il répète sa question. Il dit, si on te donne la possibilité de choisir entre la sagesse et l'argent, qu'est-ce que tu choisis? Le petit garçon, il dit, l'argent. Le prêtre, il dit, mais moi, si on me pose la question, il dit, je vais dire la sagesse. Le petit garçon, il dit, mais bien sûr, on veut toujours avoir ce qu'on n'a pas. La sagesse ici, on la comprend comme voir les choses telles qu'elles sont. Telles qu'elles sont, dans leurs difficultés, pas se faire à croire qu'on est dans un monde qui va bien. Parce qu'on ne peut pas travailler à transformer le monde, on ne peut pas travailler à construire le royaume de Dieu si on ne se rend pas compte de quoi on part. C'est comme si on disait, ben non, nous autres, on n'est pas des êtres humains déchus, ben non, il n'y a jamais eu de péché, tout va bien. on part mal. Il faut d'abord faire un constat. Il faut avoir un bon diagnostic si on veut trouver un bon remède. Voir les choses telles qu'elles sont. Et puis, quand on voit les choses telles qu'elles sont aussi, c'est de voir l'impossibilité pour nous de faire des choses. Et précisément, être sage, c'est d'exiger l'impossible pour des chrétiens. Parce que l'impossible, nous, on ne peut pas y arriver. Dieu, oui. Et c'est ça, être sage, quand on est chrétien, c'est de demander l'impossible. C'est impossible de vivre en harmonie, en paix, en amour, en justice pleine et en liberté pleine dans le monde actuel, mais pas pour Dieu. C'est en ça qu'on croit. Que Dieu, oui, peut faire ça. Tout ce qui apparaît impossible à l'être humain et que le sage, selon le monde, c'est dire, ben c'est pas possible, franchement, tu peux pas te mettre là-dedans, ça arrivera pas, c'est pas comme ça que ça marche. Et pour Dieu, justement, ça marche autrement. Oui, les choses sont possibles en Dieu. Et les choses qui nous apparaissent impossibles le sont pour Dieu. Je disais à un moment donné que je me cherchais un autre logement, plus grand, plus beau, plus proche du métro, avec tous les services entre les deux, mais moins cher. Ben non, c'est pas possible. Et puis, j'ai trouvé une coopérative qui l'offre. En Dieu, tout est possible. T'es sûr, il va falloir que je tourne le gazon plus souvent, par exemple. Mais... l'oisiveté, parce qu'aujourd'hui, c'est de ça qu'on parle, la sagesse versus l'oisiveté, d'être oisif, de se laisser vivre. De profiter de la vie, entre guillemets, comme certains disent. Rien faire. Passer sa vie en fête, en festin, en discussion vide, dans des parties de chambre de commerce, à regarder le hockey avec des chums à la cage au sport. Pas grand-chose de très constructif. On profite de la vie, dit-on. Jouer. Bon, ça, c'est mes affaires à moi. Hein. Je déteste les jeux. Donc, pour moi, je le vois comme vain, un peu, jouer. Surtout entre adultes. Avec des enfants, ça a du sens. Des adultes qui jouent ensemble, ça ne me rentre pas. Puis en plus, quand il faut payer pour aller voir des adultes jouer au hockey ensemble, ça me rentre encore moins dans la tête. Je trouve ça un peu ridicule. Mais en même temps, j'aime beaucoup le hockey. J'aime beaucoup regarder ça parce que je suis aussi dans ce ridicule-là. Bon. Mais c'est ça, l'oisiveté, c'est comme si tout le but de notre vie était finalement d'arriver le soir à la maison, de s'évacher sur le sofa, hein, puis rien faire, écouter la télévision, des choses souvent insipides. Pas, très rarement, on aura des émissions, mais bien qu'il y en a, hein, qui vont nous nourrir intellectuellement, spirituellement. De toute façon, ce n'est pas ce qu'on cherche le plus, et ce n'est pas les émissions qui ont les plus grandes cotes d'écoute non plus. Le texte dit, au verset 1, « Mieux vaut une bonne réputation que le bon parfum. » Évidemment, c'est une image que l'auteur emploie ici. L'être plutôt que l'avoir, c'est de ça qu'il s'agit, en fait. Il faut voir dans tout ce qu'on a lu, il y a toujours, les mots s'équilibrent entre eux, hein. Quand on parle du rire de l'insensé, on parle du rire de l'insensé, pas du rire du sage. C'est des choses différentes. Ça ne veut pas dire n'ayez pas de plaisir. Soyez drabe, soyez plate, ayez l'air bête. Ce n'est pas ce qu'on est en train de dire. Il y a une différence entre la vraie réjouissance et celle qui est apparente, celle qui est futile, celle qui est vide. En fait, celle, la réjouissance qui n'a pas le Seigneur avec elle, c'est celle-là, la réjouissance de l'insensé. Par exemple, on caresse une certaine conception de la réussite. C'est tout à fait normal que des parents veuillent que leurs enfants réussissent, qu'il y ait du succès. Et le succès, on va le compter comme étant arriver à un bon travail, des bonnes études, bien vivre. On va le comptabiliser, en fait, ce succès-là. Quelqu'un qui a un ascendant dans son entourage, qui est bien vu par la bonne société, qui est vu comme un honnête citoyen. En même temps, on s'attriste parce qu'on se dit « Mon enfant qui est trisomique n'aura jamais tout ça, réussira jamais dans ce sens-là. » Et puis là, il y a quelque chose de l'insensé dans nos raisonnements. Parce que pourquoi on prend toujours pour acquis que la réussite est nécessairement matérielle, et nécessairement matérialisable et comptabilisable? Être heureux, vivre de façon heureuse dans la vie, c'est une réussite pour un chrétien. Le trisomique peut l'avoir, l'handicapé mental peut l'avoir. Et ça, c'est toute une réussite. Pourquoi on ne souhaite pas ça à nos enfants, en fait? Ce genre de réussite-là. Cherche pas à avoir de l'argent dans la vie. Cherche pas à accomplir des choses. Cherche à être véritablement heureux. Pas à la façon de l'insensé, mais à la façon du chrétien. D'être capable de jouir, de profiter du temps avec les autres, avec les nôtres. D'entrer en relation sincère et profonde avec les autres. De s'accomplir soi-même dans ce qu'on fait. Ça peut être un geste quotidien répétitif, mais c'est s'accomplir là-dedans. Et ça, c'est toute une réussite. Les parents d'enfants autistes célèbrent toujours la victoire quand, entre 14, 13, 14, 15, 20 ans, leur enfant, pour la première fois, réussissent à faire une boucle en attachant leurs souliers. Et ça, c'est une réussite. Il y a une satisfaction plénière. Il y a évidemment beaucoup de critiques à partir des milieux chrétiens. Il y a beaucoup de critiques sur la surconsommation. Puis, bon, moi, souvent, à cause de mes idées sociopolitiques, les gens pensent que ma simplicité est volontaire. Elle ne l'est pas. Mais ça fait confondre un peu les choses, parfois. On me dit « Ah, tu as du courage, franchement, tu es un gars de conviction, pas du tout. » Malheureusement, ce n'est pas un choix plénier. Mais on critique cette surconsommation-là. Puis en fait, quand je regarde autour de moi, je ne sais pas au juste à qui on parle. Parce que dans mon entourage, la surconsommation n'existe pas beaucoup. Quand on parle des problèmes que cause l'hypothèque, savoir où prendre nos vacances, se la couler douce comme si tout le monde allait bien. On m'appelle chez nous pour me vendre le câble. On m'offre de me réparer les dents pour quelque chose qui est l'équivalent de plusieurs fois mon salaire mensuel, sans exagérer. Mais où vivent-ils, ces gens-là? On dit souvent aussi, plus on a d'argent, puis plus on en veut. Et c'est donc pas mon expérience, et c'est donc pas ce que je vois. Parce que quand on est attaché aux réalités plus proches de l'être humain, aussitôt qu'on en a juste ce qu'il faut, qu'on a juste ce qu'il faut pour vivre, on dit on est correct pour les 50 prochaines années, ça rentre bien, je paye mes comptes. Puis en fait, non, la réalité nous rattrape. On arrête d'en vouloir, justement, pour se préoccuper d'autres choses. Et ça, c'est la réalité des gens qui nous entourent. Une réalité qui ne nous sautera jamais aux yeux, une réalité que les gens ne vont jamais crier, Parce que c'est aussi humiliant dans la société dans laquelle on est, dire « Écoute, je suis pauvre, je suis à terre, je suis cassé. Hey, tu viens-tu avec nous autres en fin de semaine? Oh, je peux pas, j'ai pas le temps, j'ai des choses à faire. » La vraie réponse, je suis cassé, je peux pas y aller. Parce que tout dans notre société demande de consommer. Puis en même temps, on ne peut pas nier cette réalité-là. Il faut l'affronter. Il faut y faire face. Le problème, c'est quand on pense que cette réalité-là est une fin en soi. Ça n'en est pas une. Ça n'en est pas une fin en soi. On a d'autres choses à poursuivre. C'est le royaume, c'est l'établir ici. C'est d'en être les témoins, c'est d'en être les proclamateurs, en fait, de ce royaume-là dans le monde. On parle dans le texte aussi de la réprimande des sages, que c'est mieux que le rire de l'insensé. Et puis, bon, ça peut toujours dépendre des personnalités, mais cette réprimande des sages-là, moi, me fait du bien. J'adore me faire faire la leçon par un universitaire écologiste sur mon mode de vie, par ma petite cousine féministe. Il y a des positions qui me surprennent, qui sont créatives toujours. Par des passeurs de trac anarchistes qui me remettent sur les tracks, qui dénoncent le capital puis ce que ça fait, puis les valeurs de la société dans laquelle on vit, qui sont en fait pas conformes non seulement à son credo, mais non plus à ma foi. Ça fait du bien d'entendre ça. Ça fait du bien de se dire, il y a quelque chose à faire. Je préfère toujours voir, ça aussi c'est contraire à ce qu'on m'a toujours dit, mais je préfère toujours voir le verre à moitié vide que de le voir à moitié plein. Le voir à moitié plein, on est content avec ça. Le voir à moitié vide, c'est tout l'espace qu'on a pour travailler et pour le remplir. C'est comme si le Seigneur disait, cet espace vide-là, ça vous appartient à vous autres les chrétiens. Construisez le royaume là-dedans. Et puis c'est merveilleux, parce que le Seigneur ne dit pas, « Assoyez-vous, faites des louanges, puis ça viendra. Attendez sagement, bougez. Vous êtes responsable de la venue du royaume ici, pas de l'accomplissement final, ça lui appartient. Mais la présence du royaume dans le monde dépend de nous, parce que le Seigneur travaille à travers nous. Imaginez-vous, si le Seigneur, si Dieu a eu comme présence dans le monde, comme présence excellente dans le monde, une présence dans l'humanité, en être humain, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que l'être humain est l'endroit par excellence où le Seigneur Dieu se révèle et agit dans le monde. Lui-même s'est fait humain pour le faire dans la façon la plus parfaite. À travers nous, c'est ça aussi qui agit. C'est le Seigneur qui agit, c'est la construction du royaume. Puis on critique, on chiale ce qui se passe dans le monde, on dénonce. Moi, j'adore ça. Des fois, on n'aime pas entendre ce discours-là, puis c'est vrai que sur des choses sur lesquelles je suis moins sensible, j'aime moins ça quand on critique puis qu'on chiale, mais bon. Il y a des causes pour lesquelles ça va bien. Mais c'est fondamental de saisir qu'il faut d'abord et avant tout voir que les choses vont mal. Le Seigneur ne nous propose pas de conserver l'état de choses. Le Seigneur ne nous propose pas de conserver le monde tel qu'il s'est retrouvé après le péché originel. Le Seigneur nous propose de le transformer. Ce qu'on vit maintenant n'est pas conforme à la volonté du Seigneur. Il faut changer. On ne peut pas conserver ce qui est là. C'est à l'encontre de la volonté du Seigneur. Puis quand je dis ici, là, j'utilise parfois le mot conservateur, je ne veux pas juger des positions politiques, mais c'est l'esprit de conservation d'une réalité qu'on vit. Et ça, on la rejette. On veut autre chose. Être chrétien, c'est d'abord et avant tout être insatisfait. Insatisfait d'un monde d'exploitation, insatisfait d'un monde qui a désobéi à Dieu parce qu'il n'entretient pas des relations amoureuses entre les personnes. Parce que ce monde-là brise la confiance, la vérité, la foi pour d'autres valeurs qui vont apporter quelque chose de plus instantané, mais à long terme qui ne construit pas le royaume de Dieu. Tout projet de royaume de Dieu est nécessairement à l'encontre de l'état de choses actuel. Il faut transformer. Évidemment, je disais tout à l'heure, j'aime ça entendre des discours là où on critique, on chiale, on dénonce. C'est une figure de style. Il y a de ça dedans. Ça ne peut pas être que ça non plus. Le contenu a un rôle à jouer. On a des gilets jaunes en France qui chialent, qui critiquent, mais parce qu'ils veulent moins d'immigration, parce qu'ils veulent rejeter des gens, parce qu'ils disent que tout le monde ne devrait pas avoir droit aux mêmes choses. Il faut privilégier la classe moyenne. Bon, là, je débarque. Tout le monde a été inclus. C'est un travail d'inclusion. On va développer des relations saines, amoureuses, fraternelles et sororelles entre les personnes. Ça va dans l'objectif de notre eschatologie, c'est-à-dire notre discours sur les fins ultimes, sur là où on veut aller, sur notre projet de société qui est en fait le royaume de Dieu pour nous, dans sa plénitude. On sait très bien que le moment final de ce royaume de Dieu-là, là où ça va s'établir dans toute sa plénitude pour l'éternité, ça ne dépend pas de nous. Ça dépend de Dieu lui-même. C'est son royaume, après tout. Chose certaine, c'est que dans la mesure historique et humaine, le fait qu'on puisse voir des signes, une présence du royaume de Dieu parmi nous, ça dépend de nous. Ça, on peut le faire. C'est parfois pas très glamour, c'est parfois très quotidien, très dans notre famille, très avec nos voisins, mais c'est là que ça commence. Et puis ça va plus loin. Le monde ne va pas bien, puis on l'a vu avec les attentats de la semaine dernière. Hein? Puis ce n'est pas juste les musulmans qui sont victimes, c'est tous ceux qui croient en un Dieu unique, qui sont frappés par ça. Combien de chrétiens au Moyen-Orient sont massacrés? Combien de chrétiens s'entretuent aussi entre les différentes dénominations? Il y a quelque chose qui ne marche pas, évidemment. Mais ce qui se passe, il ne faut pas en avoir une lecture superficielle non plus. Comme être humain, comme on est ancré dans l'histoire, il faut essayer de comprendre ces choses-là. Chercher de l'information, de la véritable information. Lire. Lire pour comprendre les choses. Lire de la documentation, lire des livres. On a perdu ça un peu dans nos sociétés, même si parfois c'est profane. Mais aussi, surtout, lire la parole, parce qu'on est appelé à comprendre le monde à partir de cette parole-là. Il y a des fois, il y a des sauts, il y a des relations pas faciles à faire entre ce qui se passe et ce que le texte dit. Mais ça, même si on fait des constats dramatiques parfois sur notre monde, il y a quand même quelque chose. Il y a quand même un bonheur qui s'installe parce qu'il y a la satisfaction, le sentiment de dire « Je suis en train de comprendre ce qu'il faut transformer dans ce monde-ci pour édifier le royaume de Dieu. Je suis en train de participer à quelque chose qui est beaucoup plus grand que moi, l'édification du royaume de Dieu. À partir de ce que je suis comme personne humaine, à partir de mon incapacité comme être humain à transformer ce monde-ci, je suis en train de le faire parce que je crois en Dieu. Lui est en train de m'inspirer par sa parole et je l'applique au monde où je vis. » Moi, ça me procure beaucoup de bonheur de penser à ça. C'est très satisfaisant. Et je pense qu'il faut apprendre ça. On a, comme chrétiens, tout un travail à faire, à combattre l'anti-religiosité qu'on a dans notre monde. Il faut comprendre leur position. Le laïcisme ambiant, qui veut exclure tout ce qui est foi religieuse, tout ce qui est discours inspiré par Dieu, en le déclassifiant, tout simplement, en le discréditant, en disant que ça, c'est des illuminés qui rêvent à des choses puis qui veulent les imposer dans le monde puis que c'est toujours mal parce que ça a toujours viré en guerre. C'est pas si simple que ça. Il y a un moralisme religieux, en effet, qui a voulu conserver des états de choses mauvaises. Et c'est vrai, ça existait, on ne peut pas le nier. Et dans toutes les confessions. Au nom de la foi, on rejette l'immigration. Au nom de la foi, on est allé éliminer des gens dans d'autres contrées. Au nom de la foi, on a colonisé puis perverti les pensées des gens. Mais ce n'est pas que ça, croire. La foi, ce n'est pas ça, en fait. Et pas du tout ça. Ça, c'est les manifestations religieuses de la foi. Mais la foi est d'abord et avant tout porteuse d'un projet de libération. Libération humaine de la personne et des groupes humains, parce qu'on vit en groupe. Et là, ben oui, il vaut mieux le deuil que le rire des insensés. Il vaut mieux se dire, ben oui, on est dans un monde qui a besoin de libération. Ben oui, on est dans un monde qui va mal, puis qui a besoin de moi comme chrétien, qui a besoin de mes frères et mes sœurs, chrétiens et chrétiennes, pour le transformer. Parce que sans l'action de Dieu à travers nous dans le monde, rien peut se régler, rien peut se faire. À part se raconter des blagues puis de les rire, un peu avec un rire innocent, gras. Puis penser à cette oisiveté-là. On est bien, il faut en profiter de la vie. Quand je parle de cette image de oisiveté-là, là, il faut bien distinguer des choses. Les personnes, des fois, peuvent se sentir visées. Ben oui, moi, j'aime ça. Par exemple, profiter d'un bon café le matin sur la terrasse. Moi aussi. C'est pas ça que je pense. C'est des images beaucoup plus concrètes qu'on a vues au cours des derniers mois quand on parle des corruptions de la corruption de certains maires autour de Montréal, où on les voit sur des bateaux avec des bouteilles d'alcool. L'alcool, il coule à flot. Font des niaiseries avec des mafiosi. C'est ça. C'est cette oisiveté-là. On a pris comme finalité dans le monde, on est prêt à avoir tout le monde, on est prêt à tromper tout le monde pour pouvoir profiter de la vie. C'est à ça que je me réfère, là. Pas celui qui arrive de travailler, qui prend sa bière, puis qui continue après ça pour préparer le souper, puis dorloter sa femme. Non, ça c'est correct. Les hommes, maintenant, c'est dit. Faites ça. Prenez votre bière, votre coupe de vin, puis ensuite, occupez-vous des enfants, préparez le souper. Faites dormir les enfants. Le couple va bien aller, vous allez voir. Être chrétien, c'est être nécessairement critique et insatisfait du monde dans lequel on vit. On ne peut pas se satisfaire de ça. On ne peut pas vouloir conserver ça. On ne peut pas vouloir conserver cette façon de faire les choses-là. Parce que le Seigneur nous a promis autre chose. Il nous a promis autre chose, mais nous, on a un oui à dire à ça. On a transformé ce monde-là, d'abord et avant tout, dans notre façon d'être et dans notre façon d'agir avec les autres. Chacun à sa façon. Certains, oui, ça va conduire à contester des lois injustes, à contester publiquement des manques de liberté promulgués par des gouvernements oppresseurs. Et pour d'autres, ça va dans leurs relations interpersonnelles, avec leurs femmes, avec leurs enfants. C'est bien beau de lutter pour la libération de la femme, mais ça commence chez soi, ça, dans notre relation avec notre femme, dans notre façon de considérer les choses. Il y a des hommes parfois qui se pensent bien avancés en disant « Assois, mon amour, je vais t'aider. » Mais on est en train de dire que cette tâche-là, c'est celle de la femme. On est dans le même schéma sexiste qu'on avait avant. Et là, on fait un petit surplus, on fait quelque chose. Puis là, en plus, on se donne bonne figure là-dedans. Mais non, ce n'est pas sa tâche plus que la nôtre. C'est des choses comme ça qu'on a transformé petit à petit. Et ça, ça transforme le monde. Parce que c'est vraiment autour des relations que se construit le royaume. C'est vraiment dans les relations avec les autres. Constamment, je pense qu'on a tous, comme chrétiens, à travailler là-dessus. C'est quelque chose qui n'est jamais réglé. On a toujours quelqu'un dans la journée qui passe en avant de nous, puis qu'on n'a pas le goût d'être aimable avec pour toutes sortes de raisons, parce qu'il nous a coupé en voiture, pour toutes sortes d'autres raisons, souvent ni nobles, ni bonnes. Puis on a à changer ça. En fait, toute la thématique d'aujourd'hui est venue d'une chose, parce que Marc m'a dit, ça va être le jour de la Saint-Patrick, fais ce que tu veux avec ça. Puis je suis parti d'une phrase de Bobby Sands. Bobby Sands, qui est un militant pour l'indépendance de l'Irlande, puis il disait, le rire de nos enfants sera notre vengeance. Puis dans la même semaine, j'ai vu un autre texte de révolutionnaire chrétien du Nicaragua qui disait, notre pardon va être notre vengeance. Quand on aura notre liberté historique, quand on se sera débarrassé, dans le cas du Nicaragua, de la dictature, ce n'est pas en les punissant, ce n'est pas en se vengeant, ce n'est pas en les mettant en prison, ce n'est pas en les martyrisant, les massacrant, ce n'est pas en reproduisant le même système dont on a souffert qu'on va vivre notre liberté. Mais on va se venger fortement, on va les pardonner. Et puis là, on peut vivre vraiment dans quelque chose de libérateur. Parce que sinon, on est pris sous le joug de la violence, sous le joug de la rancune et de l'amertume. Et ça, c'est difficile à vivre. Ça, c'est difficile à assumer. On ne fait pas revenir les personnes. On n'enlève pas la souffrance qu'on a eue. Et puis ça, on ne peut pas le faire. Ce qu'on peut faire, par exemple, c'est vraiment construire quelque chose de nouveau. On ne veut pas récupérer ce qu'on avait avant. On veut construire quelque chose de nouveau qui va vers le royaume de Dieu. Et ça, ça passe nécessairement par, oui, avoir maintenant un rire qui va être celui de Dieu, pas celui des insensés. Parce qu'on va être près du royaume, puis parce qu'on va y goûter, parce qu'on a des relations saines avec les autres, parce qu'on est capable ensemble de penser, de réfléchir, de rêver sur le royaume qui s'en vient. Et parce qu'on est capable aussi de pardonner à celui qui nous a fait un mauvais coup, à celui qui nous a trompés, à celui qui nous a fait souffrir tellement. On passe à autre chose, on ne conserve rien, on crée quelque chose de nouveau. Dieu fait quelque chose de nouveau avec nous, avec les chrétiens, avec ses enfants. Amen. Et pour terminer, je demanderai au Seigneur pour cette semaine. Seigneur, fais-nous voir toutes les possibilités dans notre vie quotidienne afin d'intervenir puis changer notre façon, nos relations qui sont dangereuses, nos relations qui sont empoisonnées pour les transformer en quelque chose qui ressemble à ton royaume, Seigneur. Envoie-nous ton esprit, Seigneur, pour qu'il nous éclaire tout au cours de notre vie, tout au cours de nos journées, puis qu'il nous fasse voir justement les choses qui ne vont pas bien, à l'extérieur de nous et en nous aussi. Donne-nous, Seigneur, le sens critique qu'il faut pour les transformer puis agir conformément à ta volonté. Donne-nous la force, Seigneur, de te prier et de lire ta parole chaque jour, Seigneur, pour nous orienter vers une bonne compréhension avec sagesse du monde qui nous entoure et avec sagesse des solutions et des choses que je dois transformer dans ma vie pour vivre conformément à ta parole. C'est au nom de Jésus que nous prions.